Le grand couturier Azdine Alaïa, décédé en 2017, une nouvelle fois à l'honneur en ce moment, au cœur même de son entre-maison-atelier, devenu l'association Alaïa dans le Marais à Paris. Une exposition permet d'y retrouver actuellement sa collection Été 91, célèbre et encore célébrée de nos jours pour le moment de rupture, le geste disruptif, dirait-on aujourd'hui, qu'elle a représenté. Azdine Alaïa, une autre pensée sur la mode, la collection Tati. Cette exposition est visible jusqu'au 5 janvier prochain. Une exposition dont vous êtes le commissaire, Olivier Saillard. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes historien de la mode. À vos côtés, la galeriste et éditrice italienne, figure influente de la mode et grande amie d'Azdine Alaïa, Carla Sozzani. Bonjour.
Bonjour.
La femme la plus intéressante d'Italie, disait de vous Alaïa. C'est vous qui êtes à l'origine de cette exposition et aussi d'ailleurs de l'association Alaïa. Cette exposition qui porte le nom de Collection Tati. Première collaboration entre le monde de la haute couture et la grande distribution. Tati, on parle bien de cette chaîne de magasins très populaire et à très bas prix, dont un établissement bien connu se trouve à Barbès. Cette collection a été, à l'époque, en 91, une véritable révolution, Carla Sozzani.
Oui, ben Azdine était le premier à mettre la rue et la haute couture ensemble, ce qui n'avait jamais été fait avant, je pense. Ah, sûrement. Et c'était inspiré par Julian Schnabel, son grand ami peintre, qui voulait faire des peintures sur les toiles Tati. C'est comme ça qu'a commencé l'histoire. Et Azdine a dit, bon, moi aussi, je vais faire quelque chose avec Tati. Et il était inspiré par les sacs tunisiens, tout ce qu'il voyait partout.
Schnabel, dont les toiles sont d'ailleurs également exposées dans
trois
le cadre
étoiles, trois grandes étoiles, oui.
De cette exposition. En gros, il a voulu reprendre ce motif pied de coq qui était l'emblème de Tati. Hein. C'était sur les stores, et c'est toujours d'ailleurs sur les stores de Tati, à Barbès et ailleurs. Il en a fait des œuvres graphiques. Et Azdine Alaïa a repris l'idée. En quelque sorte, il a fait le même chemin, mais dans sa discipline à lui.
Oui, absolument. Et c'était toujours, c'est pas clair. Julian Schnabel dit, c'est moi qui ai dit à Azdine de faire le vêtement. Azdine dit, non, c'est moi qui ai vu l'étoile de Schnabel et a eu cette idée.
On va demander à l'historien de la mode qui est avec nous, Olivier Saillard.
En tout cas, ce que l'on peut dire de Azdine, c'est qu'il y a quelque chose de très juste et sincère lorsqu'il disait que depuis Tunis, lorsqu'il voyait arriver des gens tous très modestes de France avec ses grands sacs Tati à l'imprimé pied de poule, c'était comme une carte postale un petit peu qui arrivait de France. Et donc, il a une relation très forte avec cet imprimé. Moi, je pense souvent aussi qu'au-delà du terme Tati, ça a des consonances avec Jacques Tati, et que ce Vichy, ça fait penser à Bardot un peu.
C'est très français, tout ça. Ça fait un peu français. Et Schnabel, d'ailleurs, voilà. Dans le catalogue de l'exposition, on voit bien qu'il a pensé très vite à Tati, à Jacques Tati.
Oui, tout à fait. Il y a une consonance de tout cela qui fait que cela marche, évidemment. Et puis, je trouve qu'en effet, c'est très Bardot. C'est très de la mode, quand même.
Ouais.
Je reprends un peu pour mon compte ce que Arletty disait de Alaïa, que c'était l'Aristo des boulevards. Et c'est un peu ça, l'Expo Tati, c'est comment on peut faire de la grande haute couture avec de la toile store.
On va l'écouter, tiens, d'ailleurs, Azdine Alaïa, à propos d'Arletty.
Quand je suis arrivé de Tunisie, ouais. Je ne connaissais pas du tout Arletty, ni les films, j'ai jamais vu. Et j'habitais dans le 16e, et la première fois que j'ai vu dans une cinémathèque Les Enfants de Paradis, j'ai trouvé que c'était quelque chose qui m'a bouleversé, de sa façon de jouer, la voix et tout. Et après, c'était un cycle, il y avait Hôtel du Nord.
Ouais.
Et d'un coup, vraiment, j'ai flashé là-dessus. Je me suis dit, c'est pour moi, elle représentait la France. C'est très difficile, plus parisien qu'elle, parce que c'était un langage très simple et en même temps très élégant. Il y avait une grandeur, comme ça, une élégance, une liberté.
Azdine Alaïa, à propos d'Arletty, Carla Sozzani, on oublie souvent de dire que Azdine Alaïa était franco-tunisien. C'est le plus grand haut couturier français, le dernier des grands couturiers d'ailleurs, dites-vous.
Bah, il était très fier d'être français, Azdine. Il disait toujours la plus grande honneur que j'ai jamais eue, c'était de devenir français. Et c'était le plus grand couturier vivant. Il y a personne comme lui ne pouvait faire les patrons, créer et aussi le faire avec son propre main, tout.
Olivier Saillard.
L'expo en est d'ailleurs une bonne illustration. Je disais souvent à Azdine, on aurait pu lui donner une nappe, une serpillière, il en aurait fait une robe du soir parce qu'il savait couper, assembler, monter.
Il savait tout faire, il faisait lui-même. Il avait moins d'assistants.
Il passait les nuits à faire. On passait les nuits à côté de lui. Lui regardait les National Geographic, comment ça s'appelle, les émissions,
d'animaux.
D'animaux. Et nous, on était à côté de lui et lui traçait, non, les règles, les épingles, coupées.
La genèse d'ailleurs de cette histoire, de cette collection Tati, dit beaucoup du caractère artisanal finalement aussi du travail d'Alaïa, Olivier Saillard.
Alaïa en plus a un parcours très différent des autres. Il a appris auprès des femmes pendant 20 ans avant de lui-même se lancer à faire des collections. C'est en faisant presque une couture un peu orthopédique qu'il a appris son métier et non pas en dessinant. C'est donc plus qu'un artisan, c'est un grand faiseur qui savait écrire en coupant. C'est difficile ça.
Il n'a jamais vraiment dessiné ou alors c'est quelque chose qui était plus naturel pour lui d'aller. Et d'ailleurs, on le prend aussi pour un sculpteur, hein, souvent. Non, on le qualifie de sculpteur.
Il a étudié. Ouais.
Non, il faisait des petits dessins. Asdil faisait des dessins. On a des petits blocs-notes. Il prenait des notes avec ses petits dessins. Et quand il voulait faire un grand, grand cadeau à quelqu'un, avec le livre, il faisait un dessin. Mais c'est très rare.
Il a fait varier les couleurs de ce motif pied de coq qui à l'origine était rose, qui a été délavé par le temps sur les stores du magasin Tati. Il a modifié un peu le motif, mais surtout il a fait changer les couleurs en bleu, en noir et puis en rouge dans cette collection 91.
Oui, il a décliné en bleu et en noir le motif Tati. Aussi, il a élargi et réduit. Il y en a plusieurs variations. Et après, pour Tati, il a fait 3 pièces. Non
oui, oui. Mais c'est ça. Comment s'est passée la collaboration, alors, Olivier Saillard, entre ce grand couturier issu vraiment d'un monde qui n'avait rien à voir avec Tati, même si ses origines tunisiennes, d'ailleurs, Tati, l'enseigne, est aussi d'origine tunisienne, il l'a appris après. Néanmoins, ces mondes n'avaient rien à voir. Comment s'est passée la collaboration?
Alors, je sais par Christophe Van de Veel, ami de Asdin, que lorsque Asdin a souhaité se rapprocher de Tati, c'est, comment elle s'appelle, André Poutman qui est allé contacter M. Waki, le propriétaire, pour cette collaboration. Alors, tous les vêtements qu'on voit dans l'exposition ont été diffusés dans les points de vente Alaïa. Et en échange, Tati a demandé à ce qu'Alaïa puisse faire un t-shirt, un sac, des espadrilles à bas prix, ce qu'il a fait. Et dont je crois qu'une partie des revenus était reversée à une cause essentielle. Et c'était la première collaboration de ce genre. Il faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas Zara, H&M, tous ces grands points de vente où la mode a acquis une sorte de dignité et en même temps, elle s'est un peu risquée. Tati, c'était une étude sociologique d'aller au département robe de mariée à Tati. Vraiment, c'était presque désespérant de voir toutes ces femmes se frotter au bonheur ou au désarroi. C'était quand même... Moi, je me souviens qu'on y allait, mais c'était pas une enseigne de mode du tout. Je crois que c'était un parti plus risqué pour Asdin que pour Tati.
On va revenir sur les aventures qui ont suivi dans l'histoire de la mode et de la haute couture avec des marques de grande distribution. Carla Sozzani, il n'était pas question pour Asdin Alaïa non plus de changer les marques. Il voulait rester un grand couturier et Tati ne devait pas changer non plus et devait rester Tati, oui, ce qu'elle était, une enseigne.
Oui, oui, il a dit « je veux respecter, je ne veux pas que Tati change son identité ». Mais moi, je ne vais pas changer la mienne, ça, c'est sûr.
Et donc, il y a eu effectivement ces 3 produits pour Tati, pour des bas coûts, et une collection, c'est celle-là qui est montrée,
une très grande collection,
qui a fait le tour du monde, qui a été célébrée à l'époque et qui l'est toujours.
Elle est toujours, et là, on a vu, beaucoup de mannequins le portent toujours. Et on a des photos.
Ça se porte encore, alors, c'est encore à la mode.
On a des photos d'Iman, de Naomi Campbell. Et d'ailleurs, on a fait faire des dessins par Thierry Peretz, surtout concentré sur Naomi Campbell, parce qu'elle lui a apporté beaucoup, Tati, les filles le portent toujours.
Ouais. C'est-à-dire que ce n'était pas suffisamment à la mode à l'époque? Ou c'est que c'était trop universel?
Oh non, on a des
suffisamment
photos
universel.
Comment ça s'appelle? Iman avec...
avec David Bowie, qui lui-même aussi portait un short.
Un short Tati d'Asdin. Ouais.
En fait, ce qui est assez certain avec Asdin, c'est que les vêtements sont assez intemporels. Comme ça, concentre un peu un effort de coupe. Quel qu'il soit, on peut les mettre... C'est un peu comme un fauteuil de Charles Eames, ou de prouver. On peut garder ça toute sa vie et le porter à souhait.
Vous dites, Olivier Saillard, que la collection du couturier, c'est la période du peintre. Alors, De quelle période parle-t-on pour Azdin Alaïa avec cette collection Tati 91?
En fait, je crois qu'il y a une première période, si on doit analyser l'œuvre sans aller trop loin, il y a une première période de 79 jusqu'aux années 90. Il y a cette période de rupture avec la collection Tati, alors que les années 90 sont une gifle pour les années 80. Tout devient austère, tout devient un petit peu gris, beige, noir avec les Belges et les Japonais.
On considérait avoir survécu aux années 80.
Il y a eu une grande claque qu'il fallait vraiment donner une gifle à cette décennie. Ça a été fait, mais on rigolait pas trop quand même. C'était noir, beige, et Azdin fait cette collection Tati. Il y a eu quelques années, on pourrait dire, un petit peu plus délicates pour comprendre, pour rester en éveil chez Azdin. Et c'est à partir du mois de 2003 qu'il y a eu un grand renouveau de Azdin avec une forme très invisible de la technique, où il est devenu le grand maître qu'il est.
Ouais, Carla Sozzani, vous diriez que cette collection est un trait d'union, une transition
C'était sûrement une rupture, parce qu'après 91, Azdin a un peu arrêté de travailler régulièrement. C'est vrai, et pendant 10 ans, il a fait les collections quand il voulait. C'est vrai qu'à partir de 2003, il a commencé à travailler plutôt vraiment sur la culture la plus pure. Et il n'était jamais content de lui-même. Il disait toujours « je peux faire beaucoup mieux ».
Comment est-ce qu'elle a été perçue, cette collection, dans le monde de la haute couture? Le Figaro a expliqué dans un article à l'époque que ça ferait plus parler les Lequesnois que les Groseilles, allusion au film La vie est un long fleuve tranquille. En gros, que les premiers concernés par ce geste artistique, qui était effectivement osé, on l'a dit, c'était disruptif, les premiers concernés seraient avant tout les bourgeois, finalement. Comment ça a réagi dans le monde de la haute couture, Olivier Sayard?
Je crois que les bourgeois étaient quand même pouvaient être aussi un petit peu choqués. S'afficher avec une toile barbée sur le dos, c'était un petit peu risqué. Il faut surtout avoir un beau corps aussi, ça compte. Non, je pense que c'était un phénomène de mode, vraiment. Très, très au-delà d'un phénomène social, phénomène de mode.
Quelles traces subsistent aujourd'hui
de
cette collection et de ce qu'a amené à ce moment-là Azdin Alaïa?
Je trouve que c'est très contemporain, dans mon point de vue, comme on a vu d'ailleurs. Les cabanes, c'est des cabanes qu'on voudrait les avoir aujourd'hui. Tout est très... Il n'est pas daté, au fond.
Non. Et puis, ça a guidé quand même, après 10 ans avant, toutes les collaborations qu'il va y avoir après avec des couturiers et des grandes marques, où on peut parler d'une forme d'opportunisme médiatique, mais pas forcément toujours d'un goût pour le sujet.
Ouais, aujourd'hui, il est courant de voir effectivement des créateurs happés par des marques grand public. Alors, happés, on peut se questionner sur le terme. H&M, par exemple, a connu un grand succès avec Lagerfeld. Ça reste aussi très marquant. C'est dans la même lignée ou ça n'a rien à voir?
C'était 10 ans après, voilà.
C'était 10 ans après, effectivement.
Plus, peut-être.
Mais je crois que c'était un peu différent comme principe. C'était les couturiers pour H&M ou pour... Tandis que là, c'était Azdin qui avait eu cette idée de faire quelque chose de différent.
Est-ce qu'il a voulu vraiment démocratiser la mode
Je pense que oui, à mon avis, oui. Mais là, c'était toujours dans son esprit. Il y avait toujours cette générosité méditerranéenne chez Azdin, dans tout.
Et puis, je crois que, moi, je me souviens toujours, presque, on peut le dire maintenant à la fin de sa vie, c'est bizarre de dire ça, mais un jour, je me souviens qu'Azdin allait dans la rue, et il me dit, je suis allé dans la rue, les filles, maintenant, elles veulent plus de mini-jupes, elles veulent porter des shorts, alors on va faire des shorts. Et j'ai trouvé ça beau, qu'après 50 ans de métier, il en soit encore à regarder la rue, à se dire, bon, qu'est-ce qu'elles veulent aujourd'hui? Je pense que c'est une manière aussi de vouloir démocratiser son travail, que de regarder comment il est adopté après.
Et de voir, voilà, ce que ça peut donner sur le vif et dans la rue. Avant lui, quand même, Yves Saint-Laurent avait tenté une démocratisation en créant sa collection Yves Saint-Laurent Rive Gauche.
Je pense que le prêt-à-porter, c'est une ouverture sur la vie de tous les jours, sur le quotidien, et c'est ce qui m'intéresse. J'ai choisi de montrer la mode, l'image de ma mode à travers mon prêt-à-porter plutôt qu'à travers ma haute couture. C'est une création tout à fait particulière, je veux dire. Ce n'est pas du tout la même chose que la haute couture. C'est une chose très différente qui s'adresse à une catégorie de gens beaucoup plus variée, beaucoup plus vaste, et qui a des règles tout à fait particulières, je veux dire. Je continue tout de même la haute couture parce que je trouve que c'est très important de préserver l'artisanat. Il y a deux catégories de vêtements dans une collection. Il y a les vêtements de base qui ne se démodent pas, qui font partie du style, si vous voulez, Et il y a les autres vêtements qui sont la mode, vraiment, c'est la mode du moment, la mode de la saison, ce qui fait les premières pages des magazines, ce qui crée toute l'excitation autour de la mode, si vous voulez.
C'était en 1966 le lancement de cette ligne de prêt-à-porter d'Yves Saint-Laurent. Yves Saint-Laurent, Rive Gauche, comment est-ce qu'on place ce moment-là dans l'histoire de la mode, Olivier Saillard ?
Dans l'histoire de la mode, c'était rare en effet qu'un couturier qui s'adresse à des clients toute couture s'adresse autant au prêt-à-porter, mais il y avait avant lui beaucoup trop de signes évidents et qui poussaient à ce que toute la haute couture se démocratise. Elle ne pouvait pas continuer dans ce sens-là, sinon tous ces couturiers auraient mis la clé sous la porte. Donc le prêt-à-porter est inévitable. Il n'a pas été inventé pour autant par Yves Saint-Laurent. Hein. C'est plutôt des stylistes femmes, Emmanuel Kahn, Christiane Bailly, des noms un peu oubliés, Sonia Riquel, qui ont vraiment poussé cet effort démocratique. Les couturiers, après, il a eu cette grande intelligence de se dire on va en faire un outil de création au même titre que la haute couture. Mais il faut toujours se rappeler que le prêt-à-porter, même de créateur, coûtait cher aussi.
Carla Sozzani.
Mais c'était aussi l'époque de Londres. Moi, je me rappelle très bien quand tout à coup on a mis les tailleurs pantalons, ce qui n'était pas envisagé du tout à l'époque. Et quand Saint Laurent a ouvert la première boutique à Milano en 67, on était toutes là devant lui, comme c'était un dieu. Enfin, la mode était pour nous toutes.
Vous avez abordé, Olivier Saillard, les problématiques économiques liées à la haute couture. On en est où aujourd'hui ? Est-ce que la haute couture est toujours difficulté ? Est-ce qu'il faut la faire passer du domaine économique à un domaine plus culturel ? Ça fait partie des vœux que vous formulez ?
Je ne saurais pas répondre. Il n'y a que des chiffres et parfois ils parlent assez. Dans les années 30, il y avait encore une centaine de maisons de couture. Aujourd'hui, il y en a moins de 10. Donc, bien sûr qu'il faut continuer de maintenir... Il y a des maisons qui le font de manière très honorable, comme la maison Chanel, qui continue de maintenir tous les métiers qu'ils subventionnent presque, du brodeur au plumassier. Après, est-ce que faire du luxe, c'est faire du cher ? Moi, je crois pas. Il faut faire du rare. Et ça donne aussi d'autres dimensions. Et peut-être qu'un vêtement est beau, pas forcément en fonction de son prix.
Mais le rare est cher ?
Le rare est peu.
Carla Sozzani, qu'est-ce que vous en pensez ?
Ça dépend vraiment. Une petite robe en coton peut être aussi belle qu'une robe avec beaucoup de métrages. Moi, je vois beaucoup de métrages dans la mode aujourd'hui, dans la haute couture. Parfois plus que les formes.
Olivier Saillard, vous demandez à ce qu'on puisse imaginer créer des centres pour la haute couture, vous me dites si je me trompe, mais un peu sur les modèles des centres d'art, vous l'avez dit.
Centres de rééducation.
Des centres d'art pour les créateurs, pour qu'ils puissent créer sans forcément se soucier des
Je sais pas, en fait, non, des fois j'ai dit des choses un peu rapidement. Je pense que...
Elles sont notées et elles s'en retournent.
Non, c'est ce qui serait important, c'est de... par exemple, il n'y a pas très longtemps, moi j'ai rencontré encore des personnes qui avaient travaillé chez Balenciaga, pour Monsieur Balenciaga, ou chez Madame Gray, des anciennes ouvrières qui ont un savoir-faire. Je pense que tous les créateurs du monde auraient une saveur, un goût particulier à travailler à la technique, ce qui était le propre d'Asdine. Mais quand on ne sait pas soi, on peut s'adresser à ceux qui savent. Et travailler dans les ateliers, c'est autre chose que de travailler sur son computer à faire des tableaux d'inspiration. Je pense que se remettre main dans la main avec ceux qui savent couper, qui savent faire, qui ont cette connaissance et ce savoir-faire-là, ça donne quand même des vêtements plus élémentaires et fondamentaux.
Quoi qu'il arrive, il y a un modèle économique à retrouver ou à affiner pour la haute couture ?
Moi, je pense que le modèle économique de la mode est à bout de souffle et qu'il faut absolument réinventer. Le nouveau créateur qui viendra réinventera un système. C'est pas forcément un système de forme, mais c'est un système de pensée. Et qu'il faut, comme Martin Margiela l'avait fait, redimensionner ça. Tout ne peut pas forcément être dupliqué via 1000 boutiques dans le monde, envahir le continent asiatique. Il y a des formats de réussite qui peuvent s'opérer peut-être de manière plus rare, plus élémentaire. La haute couture, peut-être que c'est une très basse couture, mais qui dit peu, dit bien. Peu de mots suffisent.
Elle tient par les grands groupes de luxe aujourd'hui, c'est ça qui se passe, Olivier Saillard
Elle tient par les groupes de luxe, mais pas uniquement. Moi, je vois beaucoup plus d'initiatives qui sont pas relayées forcément par la mode et avec des créateurs qui ont des intuitions autres que faire du vêtement de mode.
Carla Sozzani.
Moi, je pense que peut-être aujourd'hui, je ne parle pas parce que, oui, avec le mot d'Asdine, peut-être, il y a trop de collections. On parle beaucoup de sustainability, de faire attention, mais on produit une quantité exagérée de produits. Et ce que je trouve, c'est très bien aujourd'hui, que les jeunes sont beaucoup très intéressés aussi à utiliser des vêtements qu'ils ont déjà eus, qui existaient déjà. Plus conscient à notre planète. Je pense que ça, c'est très important. Et
ça se fait depuis longtemps, ça, hein, mais peut-être que ça monte en puissance, ce phénomène-là. Asdine Alaïa, d'ailleurs, le faisait lui-même, de reprendre, de donner une vie longue à ses créations.
C'est pas tout à fait la même chose. Asdine avait, j'ai dit souvent que c'est plus difficile de se répéter que de changer d'idée, parce que quand on ouvre le sac à idées, on peut y mettre plein de choses, changer les couleurs et tout. Avoir le sentiment qu'on connaît tellement bien son métier et qu'on peut raffiner la veste de collection en collection parce qu'on va la faire meilleure, c'est plus risqué. Asdine savait faire ça. Ça ne veut pas dire qu'il retaillait dans les vêtements qu'il avait. Mais je pense en plus, et pour reparler d'Asdine aussi, par rapport à cette période, Asdine dans les années 90, au moment de la collection Tati, c'est, comme disait Carla, il a dit non, il a essayé de refuser. Plus de collection, pas autant qu'il en fallait. Il a été le seul à dire non, je refuse.
C'est toutes les maisons hein, qui l'ont sollicité et qui le voulaient.
Pourquoi ça n'a pas été plus suivi? Parce que c'est un exemple. C'est vraiment un exemple de faire peu, mais bien et de manière excellente.
Vous avez la réponse à cette question?
Je pense que c'est un exemple d'intégrité. Asdine a été l'intégrité, c'était vraiment pour lui la chose la plus importante. Il a renoncé, il a fait beaucoup de sacrifices, mais il n'a jamais lâché son idée.
Il avait coutume de dire qu'il était libre, qu'il se sentait libre, notamment pour ses collections qu'il présentait parfois complètement à rebours du calendrier officiel.
Il travaillait de son travail, comme il disait Olivier, il raffinait son travail et il n'était jamais satisfait de son travail, il voulait faire mieux toujours.
Il n'avait pas peur de la mode au musée? Parce que là, finalement, ce que vous faites avec cette collection exposée à l'association Alaïa dans le Marais à Paris, c'est la mode au musée, l'exposition d'une collection qui, du coup, est figée, est là jusqu'au mois de janvier.
Carla va me corriger. Je pense qu'Asdine, en fait, lorsque j'ai fait une expo de lui à Galliera, je crois que c'est le créateur qui avait le plus de reconnaissance pour cette reconnaissance muséale. Ça signifiait quelque chose, vraiment, qui n'était pas une entreprise de communication, c'était « on reconnaît mon travail, l'État reconnaît mon travail, je suis fier ». Après, ce qui se passe à la galerie, après ce qu'il pense, je trouve qu'Asdine avait un sentiment fort de son travail. C'était un homme humble, modeste, travailleur artisan, mais avec une connaissance très haute, fier de son travail. Donc je pense qu'il serait très fier de voir qu'il est consacré en permanence.
En plus, c'était son idée, parce qu'en 2007, quand on a créé l'association d'Asdine Alaïa, Christophe Asdine et moi, il savait exactement déjà ce qu'il voulait. Il voulait que les prochaines générations puissent regarder, connaître, apprendre son travail, et pas seulement son travail, le travail de tous les grands maîtres qu'il a collectionnés.
Et c'est l'objectif de cette association, Alaïa, qui va devenir une fondation,
Devenir une fondation d'utilité publique, selon ce qu'Asdine voulait. Et on va faire beaucoup de courses, on vient de commencer, et pour apprendre aux jeunes, et on va donner des bourses, et qui peuvent aussi, les jeunes pourront être dans les ateliers Alaïa qui existent toujours aujourd'hui, il y a toujours 30 personnes qui travaillent.
Une façon de renouveler l'écosystème de la haute couture et de la mode. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Carla Sozzani, Olivier Saillard, d'être passé par les matins d'été de France Culture. L'exposition Asdine Alaïa, une autre pensée sur la mode. La collection Tati est visible jusqu'au 5 janvier prochain dans les locaux de l'association Alaïa, qui est au 18 rue de la Verrerie, dans le 4e arrondissement de Paris.